L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Et aujourd'hui, nous lisons les versets 20 et 21. Nous sommes arrivés à cette partie aujourd'hui. Nous allons prendre ces deux exhortations ensemble. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Enfants et parents, quel sujet important pour nous, même si nous sommes grands, nous avons encore des parents, même si nous n'en avons plus, nous sommes peut-être parents ou nous sommes auprès des gens qui sont parents et que nous pouvons aider. Ou peut-être même ce passage va nous aider à comprendre notre vie avec nos parents. Et notre vie avec nos enfants. On va commencer avec le premier verset du texte. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Très tôt dans la vie d'un enfant, il doit apprendre que l'autorité de sa vie n'est pas sa propre volonté. Je dirais qu'il y a deux grandes leçons qui doivent commencer à s'imprégner dans la vie d'un enfant dès le bas âge. La première leçon, c'est qu'il est aimé. Et la deuxième leçon, c'est qu'il n'est pas le roi. Le premier mot aux enfants, c'est le mot « obéir ». Obéissez. Ça signifie que la vie est une course d'obéissance à la volonté de quelqu'un d'autre. Ma vie n'est pas « je veux, je pense, il y a un autre ». Et sa volonté est la règle de ma vie. Alors là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, n'est-ce pas, autour de nous dans le monde aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu est le plan d'architecte de la vie de l'enfant. Et il doit apprendre rapidement que sa vie est une vie d'obéissance. Il va trouver en fait la liberté au sein de l'obéissance à un Dieu dont la volonté est parfaite et large. Deuxième chose que je voulais vous dire au sujet de dans cette introduction. Très tôt dans la vie, l'enfant doit apprendre que pendant son enfance, l'autorité de Dieu est largement déléguée entre les mains de ses parents, qui doivent le guider et le conduire pour Dieu. C'est pour cela que Paul dit, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » L'obéissance aux parents n'est pas une chose arbitraire, c'est pas un truc que les parents ont décidé, c'est pas un truc que la culture occidentale a décidé, c'est le Dieu créateur qui a formé la famille et fait en sorte que son autorité passe dans la vie de l'enfant largement par l'autorité parentale. Obéissez à qui? Est-ce que le texte dit « enfant, obéissez à Dieu » Ils doivent obéir à Dieu. Le texte dit, Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc, l'enfant doit comprendre que l'obéissance aux parents est une forme d'obéissance à Dieu. Et lorsqu'il pense que est-ce que j'obéis à maman ou non, elle n'est pas là, il doit y avoir dans sa tête associé à l'obéissance à maman, l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu informe son obéissance à ses parents. Maintenant, ce n'est pas tous les commandements des parents qui sont bibliques. Ce n'est pas tout ce que mes parents m'ont dit en tant qu'enfant qui était des commandements moraux de la Bible. Par exemple, couche-toi à 21 heures, ne laisse pas tes chaussures en bas, ramène-les en haut dans ta chambre, tandis que d'autres parents disent laisse-les en bas. Parce qu'on a un local en bas pour. Vous voyez, pas tout commandement de parents est une affaire morale. Mais tout commandement des parents qui n'est pas contre la Bible est un commandement qui est donné à l'enfant de la part de celui qui Dieu lui donne comme son guide et son conducteur pendant son enfance. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Si un parent commande à l'enfant de pécher, là il doit désobéir. Le texte nous dit, enfants, obéissez en tout à vos parents, mais le en tout doit être compris comme tu n'obéis pas sélectivement à tes parents. Quand tu veux, tu obéis à tes parents. Mais bien sûr, il y a une exception. Vous avez lu la Bible, vous connaissez l'histoire de Saül et Jonathan. Saül le roi qui commande à son fils ainsi. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais, le mot suivant c'est mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Au lieu d'obéir et de tuer David, il cherche David pour sauver David de son père inique. Si le papa dit, enivre-toi avec moi, mens pour moi, désobéis aux autres autorités qui viennent de Dieu, ne paie pas tes impôts. Je vais te montrer comment le faire. N'est-ce pas? N'écoute pas les anciens de l'Église. Quand un papa dit des choses comme ça c'est l'exception à la règle. Il n'a pas le droit de commander des choses qui sont contraires à ce que Dieu lui-même dit. Mais normalement, un papa va pas donner des ordres comme ça. Troisièmement, il est critique pour toute la croissance vers la maturité que l'enfant développe un profond respect pour l'autorité aimante de ses parents. Dans le passage parallèle en Éphésiens, nous lisons ceci: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ce qui me chagrine et vous chagrine sans doute en allant au supermarché ou au parc, c'est de voir à quel point aujourd'hui les enfants manquent de respect pour leurs parents, même méprisent leurs parents, et cela dès le plus bas âge. C'est incroyable. C'est prophétisé dans le Nouveau Testament que dans les derniers temps, les enfants seraient désobéissants aux parents. Et nous voyons cela d'une manière que nos aînés ne connaissaient pas. Mais ce qui est grave, c'est ce qui va arriver à cette génération de petits-enfants maintenant qui dédaignent l'autorité parentale. Parce que L'attitude d'un enfant envers l'autorité parentale devient la pierre de l'angle pour son attitude envers toute autre autorité dans la société. Et l'enfant qui ne fait aucun cas de l'autorité de son parent, vous savez comment il sera avec le prof, le policier, et ainsi de suite. Mais notre but, c'est d'aimer et d'instruire nos enfants de manière à ce que nos enfants aient un égard affectionné pour nous en tant que parents et autorités. Et donc qu'ils développent cette respect que, oui, papa, oui, maman, même et savent mieux que moi, et Dieu les a mis là, et je peux faire confiance à eux, et je leur dois cela. L'enfant doit développer une hésitation devant la tentation de violer le commandement de maman ou de papa, et doit développer une honte de l'avoir fait. Ensuite, l'obéissance d'un enfant est réelle quand elle comporte les caractéristiques suivantes. Regardez ceci. D'abord, l'obéissance d'un enfant doit provenir d'un cœur, d'une certaine attitude, animée de confiance et de respect. OK. Maintenant, un jour, il y avait un enfant de 4 ans. Et papa a dit, parce qu'il se tenait constamment sur sa chaise à la table en mangeant le dîner, et papa a dit, tu vas t'asseoir, sinon tu vas avoir une discipline. Et enfin, l'enfant s'assoit, il croise les bras et il dit, papa, je suis assis en dehors, mais au-dedans, je suis debout. L'obéissance est tout le contraire. L'obéissance est au-dedans du cœur. Même si parfois l'enfant doit se faire violence un peu à sa volonté, il y a une partie de lui qui dit non. Non à lui-même et oui à ses parents. Donc, les parents chrétiens ne sont pas impliqués dans le management de comportements extérieurs. Beaucoup de parents le sont. Toute leur manière d'éduquer concerne seulement le dehors, l'action extérieure. Et si le public peut voir qu'il est tout nu, cet enfant, comme il faut, le parent est content. Mais les parents chrétiens visent le cœur, les attitudes, le pourquoi tu fais ça. Et cela, on pourra parler à un autre moment. Mais mon fils, si ton cœur est sage, dit le proverbe 23, mon cœur à moi sera dans la joie, mes entrailles seront émues d'allégresse, mais quand tes lèvres diront ce qui est droit, que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Écoute, mon fils, sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite, ne sois pas parmi les buveurs de vin, etc. Et il dit enfin, à la fin de ce passage, mon fils, donne-moi ton cœur. Et le papa et la maman disent, ils veulent arriver à ça. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Confie-toi du cœur, joyeusement, avec affection en moi et à mes conseils. La deuxième chose qui caractérise une vraie obéissance, c'est que l'enfant obéit premièrement parce que son parent veut l'action et non pas premièrement parce qu'il veut cette action. Je vois parfois des parents qui passent 5 minutes à se baisser vers l'enfant de 3 ans qui ne veut pas lâcher la boîte de céréales au supermarché. C'est pas la sorte de céréales que cet enfant doit manger, de toute façon, à 3 ans. Et le parent, il prend 5 minutes pour expliquer. Et l'enfant, non, moi je veux, je veux, je veux. Mais tu vois, il y a trop de sucre. Et puis si tu manges du sucre, alors ça va faire. Vous voyez? Vous avez vu ça? C'est incroyable. Qu'est-ce que ce parent veut? Ce parent veut que l'enfant obéisse parce que l'enfant a compris pourquoi ce sentier est bon. Mais pour l'enfant de bas âge, ce n'est pas le principe de l'obéissance parce qu'il y a plein de choses qu'il peut pas comprendre. Il doit obéir parce que papa comprend que ce sentier est bon, parce que maman comprend. Maintenant, quand l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, cela change. De plus en plus, on instruit, on explique pourquoi une telle action est bonne et sage et nécessaire. Mais au début, il y a beaucoup d'autorité et peu d'instruction. Et au fur et à mesure que l'enfant grandisse, il y a de moins en moins une façon de dicter et de plus en plus une façon d'amener l'enfant à voir lui-même que c'est le bon choix. Mais au début, l'enfant obéit non pas parce que c'est sa volonté, mais parce que c'est la volonté sage et bonne de son parent. Ensuite, dans une vraie obéissance, l'enfant obéit immédiatement. Alors, il n'y a rien de plus courant que de voir une maman ou un papa dire à l'enfant, maintenant, il est temps de partir, allez, viens, on va aller dans la voiture. Allez, j'ai dit qu'il est temps d'aller. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et l'enfant ne réagit pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est seulement sa sixième fois, d'habitude, que le parent va agir. Et donc, il attend la sixième fois pour obéir. Parce que ses parents lui ont formé pour obéir seulement la sixième fois. Voilà. Donc, mais nous apprenons à nos enfants à obéir la première fois. Et nous le faisons non pas par la colère. Le parent chrétien n'utilise pas la colère pour produire l'action. Il utilise l'action pour produire l'action. C'est-à-dire, quand je dis une parole et mon enfant n'agit pas, je ne donne pas une deuxième parole. Ce n'est pas une parole cette fois. C'est une discipline. Et l'enfant apprend que soit j'obéis la première fois, soit j'ai une discipline. Voilà. Et donc la discipline est dosée selon la situation, bien sûr. Mais c'est important pour l'enfant de comprendre que la parole du parent fait autorité la première fois. Et quand l'enfant apprend à obéir la première fois, quelque chose de profond arrive chez l'enfant et l'enfant apprend à vivre heureux. Parce que il n'y a pas de conflit constant les 6 fois et le parent finit toujours par crier sur l'enfant, ce qui endommage l'enfant beaucoup plus que la discipline rapide et très dosée parce qu'il n'y a pas de drame. Mais si chaque fois qu'il faut quitter le parc ou faire ceci ou faire cela, il y a 6 fois la colère, tu n'obéis jamais, des injures, alors il y a une relation parent-enfant qui est complètement bousillée, alors que ça pouvait être une relation vraiment harmonieuse et intéressante si l'enfant obéissait la première fois. Maintenant, je vous donne juste quelques bribes là au sujet de enfants obéissez à vos parents. Et nous avons juste quelques enfants aujourd'hui qui sont encore à la maison, mais on peut toujours tous penser à cela à notre niveau. Maintenant, très rapidement, je veux vous parler de père, n'irritez pas vos enfants. Et je ne vais pas vous expliquer ces choses, mais je veux vous donner plusieurs manières dont les pères irritent leurs enfants. C'est un grand problème. Paul ne s'adresse pas aux mamans. Vous avez remarqué? Pour les enfants, il ne dit pas « enfants, obéissez à vos pères ». Il dit « enfants, obéissez à vos parents ». N'est-ce pas? Parce que les parents ont tous les deux l'autorité parentale et sont impliqués dans l'éducation des enfants. Mais ensuite, il a une parole spéciale pour les pères qu'il n'a pas pour les mères. Et à juste endroit. Parce que ce sont les pères qui ont ce problème plus que les mamans. D'irriter leurs parents, leurs enfants. Donc, voilà, je commence ma liste. Tu vas irriter tes enfants si tu es papa, et je vais parler dans la deuxième personne, si tu fais plus de retrait que de versement dans le compte relationnel de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des papas qui sont constamment en train de critiquer, de dire à l'enfant ce qui ne va pas, de parler négativement, et très peu, tu as bien fait. Bravo pour ta persévérance. Je t'aime. Combien je suis béni de t'avoir. Peu de fois, ils prennent l'enfant dans le bras. Donc, il y a beaucoup de retrait du compte. Tu n'arrives pas à faire ça. Mais pourquoi est-ce que tu viens pas quand je t'appelle? Tu es nul. Oui, il y a beaucoup de retrait, même des retraits illégaux. Et trop peu de versements. Et à la fin, un enfant va être un enfant frustré. Il ne peut pas vivre avec un tel déséquilibre. Deuxièmement, si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu fais preuve de dureté verbale, émotionnelle ou physique. Si tu cries sur tes enfants, si tu t'emportes envers ton enfant, si tu injures, tu es bête, tu ne vaux rien, je vais te casser la figure, on entend tout, hein? Si tu parles avec sarcasme à un enfant, tu es coupable d'abus sérieux. Si tu humilies ton enfant devant les autres, si tu te moques de ton enfant, si tu manques de respect, vous savez que le respect est toujours une affaire mutuelle. Les papas veulent que les enfants le respectent, mais le papa doit respecter son enfant. Si tu grondes tes enfants constamment, les harcèles au sujet de plein de petites choses, alors un tel enfant va grandir profondément blessé, frustré, irrité envers son père. Il va être un de ces enfants qui sent un soulagement lorsque papa n'est pas là. Quel dommage! Quel dommage quand dans un foyer, les enfants commencent à avoir le visage qui brille et qui sourit parce que papa est en voyage. Mais quand il y a de la dureté, c'est exactement l'effet. On se sent un soulagement lorsque le papa dur ou prompt à s'emporter n'est pas présent. Ensuite, si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu donnes des ordres irraisonnables, arbitraires, légalistes ou trop d'ordres au sujet de trop de petites choses. Il faut limiter les ordres. Comme ça, tu peux discipliner pour les choses qui sont vraiment importantes. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas manger un biscuit, tu dois donner bise à tous les voisins, même à ceux que tu ne connais pas. Tu dois arranger un jeu avant d'en sortir à un deuxième. Tu ne peux pas écouter la musique que tu veux. Les enfants finissent par marcher sur la pointe des pieds. Parce qu'il y a tellement d'ordres. Il y a tellement d'ordres arbitraires, il y a tellement d'ordres. Vous savez, je connais un père qui interdisait à sa fille, jeune adulte, de porter des vêtements qui avaient des couleurs vives. Trop d'ordres. Et trop d'ordres arbitraires et légalistes. Il y a des pères qui traitent des accidents enfantins comme des péchés. L'enfant casse un verre et le père s'emporte comme si l'enfant avait fait une injustice. Les enfants cassent des choses, les enfants sont gauches, les enfants sont peu attentifs, ils sont pas matures. Mais casser un verre n'est pas dire un mensonge. C'est pas défier l'autorité du père, c'est pas défier Dieu. Et le père, si vous voulez ne pas irriter vos enfants, vous ne devez pas traiter un accident enfantin comme si c'était un péché. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et on comprend bien, si l'enfant ne peut pas être un enfant, avec les trucs que font un enfant, ils vont se décourager. Ensuite, si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu fais de chaque ordre un test de soumission de l'enfant, un champ de bataille. Voilà l'enfant d'un an qui rampe maintenant et qui va vers le vase très précieux du voisin. Et papa dit, ne touche pas. Et l'enfant continue, ne touche pas. Et il va établir là un test d'obéissance. Au lieu d'aller prendre la vase et le poser un peu plus haut que ce que peut atteindre l'enfant, il va faire de chaque petit truc un test d'obéissance. Et il va irriter ses enfants, même à un très jeune âge. Si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu emploies la discipline corrective pour obliger une action au lieu de l'employer pour punir une action choisie. Voilà ce que je veux dire. L'enfant ne veut pas manger ses épinards. Il y a des pères qui font de la discipline une manière d'obliger l'enfant de faire ce qu'il ne choisit pas de faire. Et donc, ils vont aller dans la fessée, tu reviens, maintenant tu manges. Il ne mange pas. Dans une autre fessée, maintenant tu manges. Et la discipline n'est pas faite pour obliger une action non choisie. La discipline existe pour que quand l'enfant est devant le choix, tu peux ne pas manger tes épinards, mais si tu le fais, tu auras une discipline. L'enfant choisit, la discipline est faite, l'affaire est finie, on ne parle plus des épinards ce soir. Ok? Donc, un père va irriter ses enfants s'il emploie la discipline corrective pour obliger une action au lieu pour punir un mauvais choix. Ensuite, si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu ne vis pas toi-même ce que tu ordonnes à tes enfants de faire. Alors, si les enfants sont experts en quelque chose, ils sont experts pour discerner l'hypocrisie. Les enfants ont des antennes et ils savent. Quand papa leur demande d'être d'une certaine manière, ne sois pas égoïste. Mais papa est toujours en train de s'allonger sur le canapé et faire bouger tout le monde pour lui apporter tout ce qu'il veut. Vous pensez que vous n'allez pas irriter votre enfant? Vous pensez qu'il ne va pas devenir un enfant irrité? Le décalage énorme parfois entre ce que exige le papa et ce qu'il fait lui-même est tellement frustrant pour un enfant qui veut tout sauf suivre la foi de son père, si le père se dit chrétien. Et ça pousse certains enfants à aller loin de la foi chrétienne parce que le décalage entre ce que le père dit qu'il croit et ce qu'il vit est trop énorme. Ensuite, si tu aimes sans discipliner, C'est bizarre de le dire, mais on peut irriter un enfant quand on a cet amour qui couve, qui donne tout, mais qui ne dit jamais non. Je ne vais pas aller plus loin, mais les psychologues le disent. La discipline donne de la sécurité et des frontières claires à l'enfant. Ensuite, père, tu vas irriter ton enfant si tu exiges à être écouté, mais tu n'écoutes pas. Parfois, papa dit, fais telle chose, et l'enfant dit, mais papa. Et il a une information qui changerait la vie de papa si papa savait. Mais papa ne laisse pas ouvrir la bouche à l'enfant. Et le proverbe 18-13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ensuite, si tu perds, tu vas irriter ton enfant si tu as toujours raison et si tu ne demandes jamais pardon en avouant tes torts sans excuse. Dans un foyer où papa ne se repent jamais, humblement, j'avais vraiment tort de te parler comme ça. Pardonne-moi. Vous aurez des enfants souvent irrités. Parce que tout père est pécheur comme son enfant. Et si l'enfant doit demander pardon, doit être discipliné, doit être corrigé, pourquoi est-ce que papa n'avoue jamais qu'il a eu vraiment tort? Quel baume pour le cœur de l'enfant que d'avoir un papa qui dit j'ai mal fait envers toi. Je suis vraiment désolé. Pas d'excuses. Parce que c'est demander pardon en justifiant le comportement ne vaut rien pour l'enfant. Excuse-moi d'avoir parlé comme ça, mais tu m'as provoqué. Ça vaut zéro, n'est-ce pas? C'est, je ne devais jamais te parler comme ça. Ça, c'est mon cœur. Pécheur qui est responsable, pardonne-moi. Ensuite, si tu varies constamment dans tes exigences et dans ta discipline, tu vas irriter tes enfants. C'est l'inconséquence, n'est-ce pas? Il y a des pères, je les ai vus un jour avec l'enfant, une chose est permise. Et incite le sourire du papa. Le lendemain, il fait la même chose et papa explose. Imaginez le fait d'être enfant dans le foyer. Tu ne sais jamais sur quel pied danser. Nous devons être conséquents avec nos enfants. Si tu es papa, tu vas irriter tes enfants si tu ne t'amuses pas avec eux. Si tu ne joues pas avec eux, si tu es trop sérieux. Cela, je l'ai vu dans une famille, une fois dans laquelle je suis allé. Cette famille avait 8 enfants. Le papa avait été politique, un politicien avant. C'était un homme bien fort, bien imposant. Et tout le monde se tenait très bien à la table. Mais tout était sérieux, sobre, solennel. Et je voyais des enfants de tous les âges qui étaient déjà un peu brisés et certains qui étaient déjà montrés des signes d'irritation. Les enfants sont enjoués de nature. La nature d'un enfant, c'est la nature du jeu. L'enfant a besoin de s'amuser. Même le Nouveau Testament le dit. Et si papa n'est pas là pour rouler par terre avec ses enfants, s'il n'est pas là pour rigoler, pour jouer un jeu d'enfant avec ses enfants, les enfants vont grandir dans une atmosphère qui est trop sérieuse pour un enfant, qui est trop solennelle. Et ça risque aussi de les irriter. Dans cette famille que je viens de décrire, j'ai fait la gaffe de demander pendant le repas à une des filles qui était adolescente, qu'est-ce que tu aimes faire comme passe-temps? Dès que j'ai posé la question, je savais que j'avais fait une gaffe énorme. J'ai vu son visage tomber en tristesse, en chagrin. Il y avait un silence mort. Et elle a dit, dans mon temps libre, j'aide avec la vaisselle, je fais de la couture. Et elle me décrivait la vie d'un adulte. Et son papa, interrompu, il a dit, tu joues aussi de la musique. N'est-ce pas? Et donc, elle n'avait pas cette phase d'enfance réelle. Et cette gamine était déjà quelque peu irritée de sa vie. Si tu ignores ton enfant et le traites comme une interruption, souvent, tu vas irriter l'enfant. Quelle difficulté pour nous en tant qu'hommes, n'est-ce pas? Nous sommes parfois plongés dans une chose, les finances, le budget familial ou la mécanique de la voiture, et nous qui ne pouvons faire qu'une seule chose à la fois, nous les hommes, et l'enfant vient, papa, tu sais quoi? Et si, de manière habituelle, le père n'apprend pas à s'arrêter, et dire crois, viens, viens me dire. L'enfant se sentira vraiment refoulé et c'est très irritant. Si tu ne changes pas l'équilibre, j'en ai deux de plus et puis on s'arrête pour aujourd'hui. Si tu ne changes pas l'équilibre entre l'autorité du parent et la responsabilité de l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu vas irriter ton enfant. Je veux dire tout simplement ce changement dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand l'enfant grandit et devient adolescent, de plus en plus, la responsabilité est mise entre ses mains de prendre sa décision par rapport à certaines choses. Et il ne vit pas une vie dictée, menée par le parent. Bien sûr, le parent interdit certaines choses qui sont mauvaises en soi et les interdit toujours. Mais il y a certaines choses qui peuvent être moins sages, il semble, que d'autres. Est-ce que je dois, avec ma fille hier, on a eu une discussion. Est-ce qu'elle va continuer, elle doit travailler cette année, arrêter les études pour une année, est-ce qu'elle va travailler à Montpellier auprès de tous ses amis, ou est-ce qu'elle va revenir vivre avec nous, travailler, et n'ayant pas de loyer à payer, pouvoir épargner pour acheter une voiture? Bien, je sais mon idée, mais je lui ai dit, le choix est pour toi, véritablement le tien. Et moi, je veux que tu choisisses ce que tu penses être le meilleur. Je t'explique ce que moi je pense, mes conseils, mais si j'avais dit à mon enfant, qui a 21 ans, tu vas revenir à la maison, tu vas travailler. Désolé, c'est comme ça. C'est moi qui te soutiens financièrement, c'est moi qui décide. Alors ça, c'est une bonne manière de fâcher une fille, d'irriter une fille adulte. Et moi, je préfère qu'elle fasse fausse route et qu'elle apprenne de ses erreurs que d'imposer comme si elle avait 12 ans ou 10 ans. Et la dernière chose, c'est que le père va irriter ses enfants, tu vas irriter ton enfant si tu es pas père, si tu manques de respect et de tendresse envers ta femme, sa maman. Ça, c'est très irritant pour un enfant de voir papa maltraiter maman et de manquer de respect et de tendresse envers elle. Conclusion. Il n'y a rien de plus formateur dans la vie d'un enfant pour former son image de qui est Dieu le Père que son Père. Nous avons un appel et aucun d'entre nous ne peut rester neutre par rapport à ce que je vous dis et je me dis aujourd'hui. Aucun d'entre nous n'échappe. La parole de Dieu nous parle à nous tous et nous reprend en nous disant, Père, n'héritez pas vos enfants. Nous pouvons changer, nous les pères. Par la grâce de Dieu, nous pouvons reconnaître là où nous avons été durs ou inconséquents ou inattentifs. Il suffit de l'avouer. Il suffit de l'avouer. C'est là le premier pas vers toute transformation. La seule barrière entre un papa et le changement, c'est sa justice propre. C'est son orgueil qui l'empêche de dire oui, j'ai hérité mon enfant en faisant ceci, en étant cela. Que nous puissions être comme notre Seigneur qui était tellement doux tout en étant ferme dans son autorité et qui a dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez auprès de moi du repos pour vos âmes. Que nos enfants trouvent aussi du repos pour leurs âmes auprès de leur papa, d'une autre manière, d'une manière parentale, que nous puissions être des bons pères. Nous allons chanter un nouveau chant qui parle de l'amour. Comme c'est au centre de notre discussion aujourd'hui, dans le carnet.